Et je te poserai la question de façon stupide. Quelle pratique vous avez développée pour les mauvais pauvres? Pas pour les bons pauvres, mais pour les mauvais pauvres, ceux qui ne fitent pas, comme disait Michel, ou ceux qui. Ou quelle réflexion vous avez eue autour de ça?
Oui, tout à fait. Comme tu le disais tantôt, c'est pas nécessairement le discours à laquelle on veut s'identifier, mais ça le fait partie quand même de réalité dans le développement de services et de pratiques. Je partirais de quand même l'accueil inconditionnel, parce que je vois beaucoup de sens pour comprendre la suite. Pour ma part, j'ai eu la chance de commencer un travail de rue et donc d'aborder la question sous l'angle de la posture. Et pour moi, l'accueil inconditionnel est un angle de posture face à la personne qu'on rencontre avant d'être dans un angle pragmatique de condition ou autre. La posture, ce qu'elle amène, c'est de considérer la personne devant soi à part entière, une personne avec des besoins, des qualités, des défauts, une personne qui a aussi le droit à ses valeurs et à ses choix. Donc, dans cette logique, la posture est d'accueillir la personne, même si les valeurs et les choix sont différents de ce qu'on pourrait voir, sont différents de ce qu'on pourrait souhaiter. Donc, ce que mentionnait à l'instant Michel, en effet, il ne faut pas être dans une logique de demander à la personne de répondre à mes critères, de prendre le médicament ou de retourner sur le marché du travail parce que l'obligation de résultat ne devrait pas être en aucun cas nécessaire dans notre intervention. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On pourra parler des contraintes dans un deuxième temps parce qu'il y en a à cet effet. Les solutions novatrices, les solutions et les approches qui sont alternatives ont pris de l'essor et selon moi sont essentielles quand on veut regarder l'évolution de nos pratiques, qui prennent donc en compte la personne devant nous et non le numéro ou le problème qu'on veut cacher. Donc, en travaillant avec la personne, on a pu voir l'émergence de la paire aidance. Je pense que c'est une approche essentielle pour rejoindre différemment. Donc, de miser sur la proximité pour créer un lien, créer un contact, qui, à mon avis, ramène une façon d'intervenir basée sur un cheminement. Parce qu'on est côte à côte, on peut discuter, on peut cheminer ensemble et non dans une logique de cases à répondre ou à cocher par la suite. Également, une autre approche qui se valait davantage alternative, ce sont l'accueil qui a rejoint un petit peu le bosseuil, comme on parlait tantôt, c'est-à-dire passer outre les conditions de code postal, d'avoir des cartes, d'avoir une identité avec un document quelconque, pour avoir accès à des services. L'ouverture dans les heures, dans les jours, pour être disponible, être présent quand les personnes peuvent être disponibles et présentes, elles également. Donc, hein, c'est une façon de dire, si tu veux vraiment t'en sortir, tu as juste à te lever et à venir le lundi matin à 9 h. Alors qu'il peut y avoir plein d'autres modèles d'action, plein d'autres modèles et des parcours et profils diversifiés chez les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, cette adaptation-là, selon moi, était absolument nécessaire pour sortir d'un cadre qui ne répondait pas nécessairement aux besoins. Je poursuis, j'en aurais beaucoup à partager dans cet angle-là. J'ai envie de parler de l'outreach qui s'est développé également. Donc, on a parlé quand même là, de travail de rue tantôt avec Geneviève. Je crois que les dyades qui sont nées en outreach, que ce soit par exemple des personnes issues de la clinique qui offrent comme une infirmière ou encore un travailleur social qui se déplacent dans le milieu des personnes, que ce soit directement en entrée sur la rue, dans des ressources qui accueillent des personnes en situation d'itinérance pour emmener les services vers les gens. C'est une belle approche qui est, à mon avis, à maintenir, qui permet de répondre à l'exclusion que peut causer parfois le cadre, les institutions, l'organisation de nos services de manière plus formelle. Donc, une approche qui est née et qui est très belle et à maintenir assurément, qui donc permet de rejoindre différemment. Puis avec l'outreach, on a aussi ce travail dans l'accessibilité dans les deux sens. Hein. Autant qu'on permet de déconstruire parfois des préjugés face à des professionnels, et également pour les professionnels, en allant dans le milieu de vie des personnes, ça les sensibilise à d'autres réalités. Donc, ça donne également un peu plus de contexte à l'intervention pour être peut-être plus adéquat ou mieux répondre aux besoins des différentes personnes. Dans les accueils avec les conditions dont on parlait, je mentionnais à l'instant, c'est sur le parcours de vie. Donc, tant dans le comportement comme l'utilisation de substances, la consommation de drogue, des personnes qui arrivent avec leur bagage, s'ils sont en situation d'itinérance, ils ont peut-être leur bagage, leur sac à dos, un animal, ça peut être un chien, mais ça peut être un chat également, ça peut être, on a eu les rats. Donc, comment est-ce qu'on est prêt à les accueillir dans nos différentes organisations? Bien, c'est sûr que de s'ouvrir face à d'autres types d'accueil en offrant des installations qui en tiennent compte, par exemple, que ce soit avec des casiers, que ce soit avec les cages, donc pour que la personne puisse elle aussi venir. Parce que c'est une réalité, si la personne est en situation d'itinérance, ça se peut qu'elle n'ait pas nulle part où laisser son animal et puis priver l'accès à des services à cause de ça, c'est un petit peu dommage. Donc, comment est-ce que nos organisations peuvent y répondre? Et il y a parfois, il y a eu des projets qui ont tenté aussi d'offrir un type de soutien, de garde ou de halte animale, donc en espérant que ça puisse voir le jour pour augmenter l'accessibilité à d'autres jeunes. Et encore une fois, ce n'est pas une question de juste à choisir de ne pas avoir animal, c'est de ne pas prendre en compte la réalité, de ne pas prendre en compte les besoins de la personne et ce que ça peut représenter pour ces personnes-là. Donc, voilà, en termes d'adaptation, on a eu une évolution dans notre discours, un discours qui se veut plus inclusif. Hein, au départ, c'était une option fille-garçon. Après ça, on est allé dans l'option « tu t'identifies fille ou tu t'identifies garçon ». Puis, à un moment donné, le discours a évolué avec des réponses non binaires permettant à la personne de s'autodéterminer également, donc dans son identité aussi. Et en ouvrant le discours, en augmentant nos connaissances, bien, on lutte davantage à nos préjugés et stigmatisations. Et parfois, c'est dans le discours de l'intervention, donc de la personne, mais parfois, c'est dans la façon d'organiser nos propres services. Action. Donc, est-ce que notre organisme perpétue des barrières dans l'accès? Ça se peut. Ça l'amène un besoin d'humilité. Ça l'amène un besoin de se remettre en question et de considérer les personnes également avec lesquelles on travaille comme des personnes qui peuvent nous orienter dans nos décisions, qui peuvent peut-être nous emmener à réfléchir à nos façons de faire pour être un peu plus adaptées. Parce qu'on est rendu aujourd'hui, 2022, mais ça va continuer d'évoluer les besoins, ça va continuer d'évoluer la diversité de parcours et de profils. Donc, je pourrais en dire plus, mais je pense que je vais passer la parole à mes collègues qui ont aussi bien à dire.
Merci beaucoup, Marie-Noël. Geneviève, j'ai vu que tu avais la main levée, puis ça donne bien. Moi, j'avais une question pour toi, mais je vais attendre de voir ce que tu as à dire. Ensuite, juste pour vous donner une idée du temps, on est à 2h10. Il y avait Michel Saint-Gelais avec qui aussi je voulais qu'il revienne sur la question des pratiques dans son organisme. Et on finirait peut-être avec le bout que soulevait France il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vos expériences à vous pourraient raconter pour le futur, pour faire mieux que les parkings ou les... Voilà. Mais là, je laisserai Geneviève aller. Michel, puis après, on repartira sur une autre.
Oui. Parlons-en des enclos, mais en fait, ça résonne quand j'entends ça. Mais je voulais quand même vous partager l'expérience que je suis en train de vivre, là, qui a émergé en 2020 là, à Québec. Le CIUS était préoccupé là, justement par les impacts de la pandémie, l'hiver qui s'installait. Et le CIUS a sollicité le milieu communautaire. Qu'ils voulaient ouvrir un espace d'accueil, justement. Fait que Puis je vous dis, j'ai comme eu un élan, j'ai levé la main sans parler à mon CA, sans, j'ai dit OK, je le prends ce projet-là. Puis pour moi, c'était vraiment un projet, un défi. En novembre, on était sollicité par le CIUSSS. Le 25 décembre, on ouvrait officiellement la ressource. Mais avant ça, il fallait que je trouve du personnel. Puis j'avais réuni, j'avais fait un appel à tous auprès des organismes communautaires du centre-ville à Québec. J'avais fait appel aux intervenants dans un Zoom, puis un peu pour leur expliquer ma vision de ce lieu d'accueil-là. Puis les mots qui me venaient en tête, c'était il faut offrir un lieu simple, un lieu où les gens peuvent être, puis que nous, on puisse être avec eux. T'sais. Puis ça a répondu. Il y a des gens qui ont quitté leur emploi, des bonnes jobs dans d'autres organismes communautaires, puis qui se sont joints à moi. Tout le monde me disait, t'es folle de t'embarquer dans ça, mais ce que ça résonnait en dedans de moi, c'est qu'il y a un réel désir de retourner à la base. C'est comme si, avec les années, on a été influencés par nos bailleurs, par des appels d'offres très paramétrés. On reparlait de professionnalisation, mais je ne sais pas s'il y a eu l'effet de la pandémie au travers de ça, mais il y a eu un besoin collectif là, d'humaniser, là, puis de revenir à la base dans la relation. Puis c'est un peu le constat que je fais, là, suite à, entre autres, à cette rencontre-là, puis avec l'engouement que ça a créé, ce projet-là. Il s'est collectivisé rapidement, puis ça a résonné dans le cœur de plusieurs jeunes intervenants aussi. Là. Pas juste des seniors, là, mais des jeunes. Ça m'a bien gros touché. Mais l'aventure faisait juste commencer. C'est bien beau de dire qu'on va être dans la relation, puis dans le lien, puis tout ça. Là, mais dans le concret, ça veut dire quoi, puis comment ça s'est passé. Puis tu sais, c'est avec beaucoup d'humilité, je vous partage ça aujourd'hui, parce que j'avais pas l'expérience de Michel Simard en refuge, j'avais pas d'expérience dans des lieux d'accueil nécessairement, on avait un petit au PPQ, là, mais c'est très informel, c'est une cuisine, les gens viennent prendre un café, mais en même temps, c'est simple, c'est ça. Mm-hmm. Ça permet des relations égalitaires, de complicité, bon. Fait que je voulais comme redonner un espace, construire un chez nous, t'sais, avec eux autres. On peut-tu être ensemble? Puis c'est pas qu'eux soient là, puis nous, on est des intervenants, mais on est là ensemble. Pis on va construire un local avec ses propres codes, puis on va être dans de la négociation. Puis, tu sais, Marie-Noëlle, tu parlais beaucoup d'adaptation. Fait que là, on se disait comment qu'on peut générer le moins d'exclusion possible dans ce lieu d'accueil-là? Bien, c'est de l'adaptation. C'est comment, parce qu'on demande souvent à ces personnes-là de s'adapter à nos services. Mais comment nous, on peut s'adapter à ce qu'ils ont besoin? T'sais? Fait qu'on est tout le temps dans ce rapport-là de négociation entre les besoins des intervenants, les besoins de l'organisation, puis les besoins des personnes qui fréquentent notre ressource. Puis, je vous dirais que ça donne lieu à des échanges, mais vraiment très, très, très riches, des réunions d'équipe très riches, en même temps très confrontantes des fois, parce que ça vient... Nos valeurs sont confrontées dans le day-to-day. Je vous dirais que j'ai eu des collègues qui ont été menacés de mort par des gens psychotiques. Je veux dire, il y a des choses qu'on accepte. Moi, le bosseuil, je déteste cette... J'aime pas ça dire ça. Même à haut seuil d'acceptation, il me semble que ça devrait être de même depuis tout le temps. T'sais, je veux dire, on ne réinvente pas rien là, aujourd'hui. Là. Je pense qu'on veut juste retourner, ou moi, quand je suis arrivée au début des années 90, on était plus là. On s'est perdu en cours de route, mais là, on revient à cette base-là. Puis comment on construit un chez nous? Ben, je pense qu'il faut accepter que la culture de la rue mette les pieds dans ce lieu d'accueil-là aussi. C'est, donc, il y a un partage de culture. Puis ça, je pense que pour une équipe, c'est une démarche qui demande d'être accompagnée. C'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile quand tu sors de l'école, tu vas avoir le plus grand cœur du monde. Puis, sauf que quand tu es confronté à de la violence dans ton quotidien, tu es confronté à des comportements avec lesquels tu as de la difficulté à dealer. Ça prend du support. Puis on est bien entouré. Moi, c'était important pour moi qu'il y ait des superviseurs, qu'il y ait plusieurs professionnels différents. Moi, je pense qu'un mélange d'expertise, là, ça, autant en post-trauma, parce qu'il y a eu quand même des collègues qui ont vécu des traumas puis tout ça. Mais on arrive à construire quelque chose. Les trois premiers mois, ça a été le chaos. Pourquoi ça a été le chaos? Parce qu'on n'avait pas de lien avec ces gens-là encore. On venait d'ouvrir. Et là, c'est ça, notre défi, c'était ça. C'était de créer des liens. Et là, je vais aller dans les obstacles.
Et Geneviève, ils sont où vos limites? C'était ça tantôt, parce que personne n'a peur de nos limites.
En fait, oui.
Je trouverais ça intéressant qu'on ait, parce que puis je trouve ça là, extraordinaire ce que tu es en train de nous partager. Jusqu'où là, tu évoques de l'aide? Jusqu'où?
Les limites.
On a-tu des limites?
Oui, il y a des limites, mais c'est des limites qui bougent tout le temps. C'est des limites qui, tu sais, dans gérer le moins d'exclusion possible, là, c'est aussi de prendre le temps de faire un pas de recul pour regarder une situation qui est en train de se passer. Notre lieu d'accueil, il n'y a pas de dodo chez nous. Là. C'est vraiment un espace, là, un milieu de vie. Puis on est vraiment dans le moment présent. On est dans l'accueil présent. On n'est pas dans du cheminement à long terme. Non, on est dans le here and now. Les gens arrivent des fois très intoxiqués, psychotiques. C'est clair qu'il y a c'est les réflexes qu'on s'est donnés. C'est que s'il arrive une situation de violence, il faut prendre un pas de recul, l'analyser rapidement. Il y a des décisions rapides à prendre, là, justement. Il y a des limites qui sont claires au niveau de la violence. Tu sais, la violence physique ou quelqu'un qui agresse un intervenant, on va l'amener à l'extérieur, mais il va être accompagné à l'extérieur par un intervenant du local qui va faire un bout avec lui dehors, griller une cigarette ou aller prendre un café, dire qu'est-ce qui vient de se passer. Puis, tu sais, il n'est pas comme ça mis à la porte, puis c'est qu'il est accompagné à l'extérieur pour permettre justement de faire baisser la pression, faire un retour sur ce qui s'est passé. Puis, il arrive...
C'est intéressant ce que tu dis, l'idée qu'il n'y a pas d'exclusion à l'intérieur d'un service, c'est une idée qui n'est pas réelle. Il y a toujours de l'exclusion. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de gérer cette exclusion-là qui correspond au bien de la personne et du milieu dans lequel on est? Et comment on fait ça pour aider les intervenants à être capables de le faire?
Mais ça, Michel, là, c'est tellement intéressant ce que tu dis, là, parce que combien de fois mes collègues de soir qui finissent à minuit puis qu'il doit demander aux gens de quitter parce qu'il est minuit, puis il fait moins 25, moins 30, puis qu'on sait que ça déborde d'un refuge.
Il n'y a pas de place ailleurs.
Il n'y a pas de place. L'équipe est en morceaux dans ce temps-là. C'est comment on récupère ça, comment...
Oui, mais... c'est de ça qu'il faut parler, à mon avis, ce que tu viens de dire. Là. Ouais. Parce que c'est de ce que France soulignait, c'est de ça qu'on ne parle pas, mais qui est très présent et que les intervenants le vivent, là. Chaque jour.
Dans le quotidien.
Et c'est très important, ça. Parce que ces situations-là deviennent de plus en plus difficiles. Les processus de sortie aussi, ça, c'est comme la société est en train de se refermer complètement. Et donc, c'est extrêmement difficile à vivre l'impuissance des intervenants et les agressions. Toute la question du trauma dont tu parlais, la conscience de ce que c'est qu'un impact traumatique, tu sais, dans la vie de quelqu'un, puis de prendre conscience des besoins, d'être capable de différencier les stratégies d'intervention qu'on utilise avec les besoins des personnes. Pour moi, c'est toutes des choses qui sont fondamentales là, pour être capable de, comme intervenant, de vivre, de durer, puis de durer en santé.
Absolument, Michel. Puis là, je vais finir là-dessus. Je pourrais vous parler longtemps, puis je vais laisser la parole à France puis à Michel, ou Michel, mais juste pour vous dire, juste pour vous dire que c'est le CIUSSS, hein, on avait un financement COVID, là, comme bien d'autres ressources, mais comment on est perçu par le CIUSSS, ça c'est important, on est un service qui coûte cher. Pourquoi on est un service qui coûte cher? Puis bon, on coûte tellement pas cher, réellement. Là. Mais parce que nous, il y a à peu près une centaine de personnes qui passent le seuil à chaque chiffre, là, sur un 8 heures. Donc, on a quatre intervenants plus un père aidant. Donc, on a 5 personnes sur le plancher pour être capable justement de créer des liens. Sinon, on serait tout le temps en train de gérer un climat, gérer une situation.
Et c'est ça, des agents de sécurité. Là,
que ça absolument, Michel. Puis nous, on ne veut pas aller là. Puis, mais le CIUSSS nous dit, ben, vous coûtez bien trop cher. C'est bien trop d'intervenants. Moi, je suis dans ce rapport-là avec mon CIUSSS à Québec en ce moment. Il faut démontrer comment finalement on ne coûte pas cher. Si on va à l'Institut en santé mentale, des fois, on ressemble à un aile à l'Institut. Mmh. Je veux dire, on n'a jamais vu autant de monde dans des états psychotiques là, qu'aujourd'hui.
Oui.
Puis avec les substances qui ne sont pas bonnes, puis bon, on vit toutes la même chose.
Les vitamines, puis tout ça.
Mais on se fait dire qu'on coûte cher. Ouais, j'arrête là-dessus. Là, ben.
Là tu vas te choquer.
Ouais, je vais me choquer, puis j'arrête.
Merci, Geneviève. Écoute, moi, j'ai un peu l'odieux de vous recadrer, alors je vais le faire. Mais pas trop. Je pensais à ce qui est en train de s'installer comme échange, mais je suis sûre que je sais que Boromir et Alain veulent créer d'autres occasions, fait que je vais lui laisser vous en parler après. Mais autour de ce que Geneviève est en train de raconter, de ce que Marie-Noëlle a parlé avant, l'idée de toujours être en train de s'adapter, encore une fois, je vous amènerai peut-être une expérience qui était dans une autre région là, que la tienne, Geneviève, où il accueille présentement 40 personnes dans un refuge. Je lui donnais de la place la nuit aussi. Et ils sont allés dans leur adaptation jusqu'à permettre que quelqu'un, un vendeur de stupéfiants, ils en ont choisi un parmi tout le lot des gangs de rue qui étaient autour pendant la pandémie, pour toutes sortes de bonnes raisons, mais ils sont allés jusque-là. Et là, ils ne font plus par ailleurs, parce que là, les choses rechangent. Mais je trouvais ça intéressant, les mouvements dans l'adaptation qui sont différents, à mon avis, que d'avoir une liste de règlements écrite en 75, qui est encore bonne en 83. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais une question pour Michel Singelet parce que je trouve que ça relie beaucoup avec ce que vient de raconter aussi Geneviève. Michel, quand on est parti au début, tu as dit, oh, il y avait avant, c'était des bénévoles, puis là, il y a eu la professionnalisation. Et très souvent, on campe les deux comme c'est la professionnalisation qui, à la limite, parfois peut créer des zones d'exclusion. Là, je le mettrais comme ça. Mais j'aurais aimé t'entendre un peu plus là-dessus, Michel.
Bien, ça amène une autre dynamique, une autre philosophie de pensée, la professionnalisation. Il y a du bon, il y a du moins bon, là. On veut y aller comme ça. Je crois qu'on était dans une meilleure... En tout cas, on avait un meilleur terreau pour s'adapter, être flexible et être en lien lorsque la professionnalisation était peut-être un peu moins là. Est arrivé avec la professionnalisation, les procédures, les protocoles, les règlements, les dangers, les actions, est arrivé aussi l'obligation de rendre des comptes. Et là, l'organisation a perdu beaucoup d'autonomie finalement dans sa capacité d'adaptation et d'être flexible à ce qu'il voit au quotidien. C'est aussi de rentrer dans un cadre qui est l'obligation de résultat. Ben oui, mais l'obligation de résultat, quand vous disiez tantôt, on est en relation, on est en accompagnement, des visions qui étaient un peu à l'opposé finalement. On a demandé à nos gens de s'adapter à notre façon de faire, qu'on va changer en fonction des orientations, des politiques. Pas facile dans ce contexte-là. Par exemple, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des niveaux de service. C'est de demander à l'équipe et à l'organisation générale de pouvoir être autant accueillante avec Monsieur X que Madame Y en fonction de qui il ou elle est, du bagage qu'elle transporte. dans les dernières années, on a un principe qui est arrivé chez nous qui est formidable, hein, la reconnaissance des acquis de nos utilisateurs et utilisatrices de services. C'est-à-dire là, un instant, là, avant de les pousser jusqu'à la fin d'un plan d'intervention avec la bague de l'ingénieur dans le doigt pour avoir réussi, et ces personnes-là ont un acquis, puis ont une expérience, puis ont des outils qu'il faut d'abord qu'on mette en lumière, qu'il faut qu'on reconnaisse chez l'autre sa capacité à être le leader de sa vie, à être la personne qui est la plus expérimentée pour prendre ses choix. On est là pour accompagner, on est là pour respecter le rythme de l'individu. Justement, on ne poussera pas dans le dos, mais on va peut-être tirer un peu sur la manche quand on va voir qu'on a besoin d'un peu plus de support dans une approche qui est centrée sur la réalité de nos individus, une approche globale, communautaire, motivationnelle, d'empowerment, qui sait pardonner, qui est toujours guidée par un accueil. Là où ça devient un peu difficile, c'est que, quels sont nos choix quand on n'a pas le choix? Tantôt, vous parliez de quelque chose de bien intéressant. Je me souviens d'une réunion d'équipe au début de l'hiver. Chez nous, ça commence en septembre environ, puis ça finit en octobre. En tout cas, on va c'est-à-dire, là, on a une capacité d'hébergement maximum. Là. On ne peut pas aller au-delà de ça. Mm. On a ouvert un centre, un refuge de débordement à grands frais, genre quelques poignées de dollars par le CIUS. Mais on est confronté, hein? On est plein, là. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont convaincu, non, ils m'ont rendu fier, mes intervenants, parce qu'ils n'ont pas fait ce que je leur ai demandé. Ils n'ont pas mis personne dehors ces nuits-là, ils ont gardé. Ça emmène des enjeux de sécurité, des enjeux de tout ça. Vous savez, mon CIUS m'a imposé des agents de sécurité dans la vie. La seule chose qui est sûre avec mes agents de sécurité, c'est que la sécurité n'est pas augmentée. C'est que c'est un faux sentiment de sécurité, mais c'est surtout une vraie image de sécurité, puis de je dirais même de fermeture dans notre philosophie d'accueil, là. Mm-hmm. Un agent de sécurité, c'est tous des bons êtres humains, je les aime beaucoup, là, mais ça n'a aucun sens dans un contexte comme le nôtre. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut, faire attention de la vision. En tant qu'observateur, on fait quoi? Je donnerai l'exemple que les 30 personnes qui vivaient dans l'autogare, là, qui étaient les bailleurs de fonds, les partenaires, nous parlaient toujours de ce n'est pas, ils ne vivent pas dans la dignité. Ils ne vivent pas dans la dignité selon qui? Selon vous, selon eux, selon nous. Allons chercher qu'est-ce que c'est la dignité pour eux autres. Qu'est-ce que c'est l'objectif? On a le temps, là, mais on est pressé par les partenaires. Ce que nos derniers services là, ont été ouverts pour dire, OK, toi, là, M. Tremblay, là, tu ne veux rien savoir de me parler, tu ne veux rien savoir de faire un plan d'intervention, mais tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin de sécurité. On va établir un volet de service qui va être comme ça, qui va être, il n'est pas ouvert à 100%. Il y a des critères d'exclusion dans tous nos services, vous le disiez tantôt, hein, ça ne se peut pas un service qui est 100%. On l'a essayé un peu nous autres, c'est ça, ça a viré en marde. Notre centre de jour, il a fallu qu'on le ferme et qu'on le rénove parce qu'on a essayé, avec toute notre naïveté au début, de dire, c'est pas pour nous qu'on le fait. Fait que moi, les deux intervenants, là, vous n'allez pas commencer à faire des codes de vie, des règlements, tout ça. Vous allez commencer par ouvrir la porte, de poser la question, comment tu vas, tu as besoin de quoi, puis vous allez bâtir un centre de jour autour de ça. On a légèrement perdu le contrôle. On l'a repris d'une certaine manière. Comment on fait pour accompagner ces gens-là quand c'est les grands penseurs autour, les bailleurs de fonds nous demandent ça. Nos partenaires nous jugent dans « mais oui, mais vous maintenez vos personnes en situation d'itinérance, de pauvreté, de vulnérabilité. En plus, c'est de la consommation, c'est ça, mais on ne les maintient pas, on les accompagne à leur rythme. » Et on n'est pas les responsables d'eux. Il faut responsabiliser que si nous sommes exclus de la société, peut-être que notre société a un devoir de poser des gestes pour la réinclusion. Et c'est quoi l'objectif? Moi, je dis souvent, mais si on vise que les gens vont partir de chez nous pour aller payer des impôts, on va arrêter ça tout de suite. Là. On n'est pas là pour aller payer des impôts. On est là pour poursuivre une personne, pour l'accompagner, pour leur volonté à ces gars-là, à ces filles-là. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui? Souvent, la réponse, c'est j'ai besoin d'argent pour ça. OK, parfait, mais on va partir de ton besoin, de ta volonté pour aller après ça avec tes forces, t'accompagner vers quelque chose qui est justement la reconnaissance des acquis. Mais la flexibilité qui est nécessaire à notre travail, il faut que nos intervenants soient à ce stade-là de leur professionnalisme et qu'ils soient bien avec ça, il n'y en a pas de possibilité autre que celle qui existe, celle qu'on va développer, celle qu'on va inventer. mais on n'aura pas le résultat. On n'aura pas la finalité de tout ça. Ça va être un travail en continu. La transition est difficile des fois entre le confort que j'ai retrouvé dans cet endroit-là et l'effort que j'ai besoin pour. Mais ça, ça va se faire avec le temps. Le respect du temps, le respect du rythme. Vous savez ce qui m'a rendu heureux, ce qui m'a rendu ému dans les dernières années, c'est quand les services professionnels ont commencé à venir se donner dans la rue, sur le terrain. Ça n'a pas été toujours facile parce que les autres qui ne sont pas sortis de leur bureau, ben, ils accusent l'autre d'être pas nous forcer à sortir tantôt. C'est pas là, là. Mais les résultats, ils sont là. Les résultats, ils sont là quand on est dans le quotidien, dans le ici, dans le maintenant, puis qu'on ne demande pas d'autre chose que d'avoir une relation qui peut être honnête, qui peut être malhonnête. Si elle est malhonnête, ça va être plus long, puis on va aller ailleurs, on va aller à la mauvaise place. On va à l'hôpital avec un mal de tête, ben, surprends-toi pas de sortir avec ton pied cassé. Là. Je veux dire, il faut aller chercher un certain niveau de confiance, un certain niveau de... Là où on a un problème, c'est quand on n'a plus l'espoir, quand on ne les a pas les possibilités, quand on est échec par-dessus échec, et qu'on se fait dire qu'on ne vit pas dans la dignité puis qu'il faut se tasser de là, on est rendu où, là? On est rendu ailleurs, on n'est pas rendu ciblé sur la personne. Là, je m'égare, là, mais nos services ne peuvent pas être conditionnels, mais ils peuvent être totalement, tout le temps en adaptation avec les gars. Le plus beau geste qu'on a fait, je pense, au début de la pandémie, c'est à nous, on ne sait plus rien. Là. On est complètement ailleurs, on n'est plus là, les directives arrivent de partout. Il y a des gens qui savent quelque chose, par exemple, on va les asseoir chez nous avec la distanciation et on va mettre le comité des usagers à plein régime. Vous allez travailler plus fort que nous maintenant parce que ce que vous vivez là, il faut nous le dire, il faut nous le nommer. On va aller se battre, mais avec vous. On ne peut plus y aller tout seul. On doit le voir avec vous. Mais on voudrait être toujours plus accessible, toujours plus flexible, mais des fois, on ne peut pas. La limite, elle est tout le temps là, mais on est la seule maison pour personnes en situation d'itinérance. Alors, si tu sors par la porte A, ben, tu vas rentrer par la porte B tantôt. C'est difficile professionnellement de faire ça. C'est épuisant pour les intervenants. C'est épuisant pour tout le monde de mettre des choses en place. Arrêtez d'avoir des grands objectifs, puis fiez-vous aux objectifs, puis de l'accompagnement sur le terrain. C'est là qui va être mon mot d'ordre dans les prochaines années aussi. Là. Désapprenez tout. Allez apprendre la vraie vie avec les personnes qui viennent chez nous. Ma cuisinière est la meilleure là-dedans. Elle ne décide pas qu'est-ce qu'elle fait à manger. Elle leur demande qu'est-ce que vous avez le goût de manger. C'est pas toujours facile, mais il faut impliquer les personnes dans ça. Trouver un appartement à quelqu'un qui ne le désire pas, là, c'est coché dans une stabilité résidentielle. C'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Il faut rester en lien avec le besoin de la personne et sa volonté à lui. Vous savez, une chose, que moi, j'ai une jeune carrière, presque 17 ans, mais la rue puis la marginalité retrouve tout le temps son équilibre avant nous autres. On passe du lundi au mercredi à trouver une solution pour un problème. On arrive le mercredi, on pense qu'on a une solution, mais le problème, il n'est plus là. Il a été absorbé ailleurs, il a été réglé ailleurs. Fait que là, notre job, c'est de prendre 3 jours pour aller les retrouver ailleurs, mais il faut tout le temps parler avec nos utilisateurs. C'est eux autres qui ont le besoin. C'est eux autres qui ont la solution. Je me tais.
Merci, Michel. Il y a Marie-Noëlle, puis après, je passerai à France, qui, elle, va nous amener sur toutes vos connaissances et vos expériences pour le futur.
Oui, je vais faire une bonne entrée en matière pour France, je crois bien. Ce que je voulais ramener, on a parlé de différentes pratiques de contexte, l'humilité comme intervenant, d'accompagner la personne, j'ai envie de dire l'humilité de la direction également. Donc, on n'a pas encore parlé de direction et de gestionnaire aujourd'hui. Geneviève te dit tantôt, et moi je me suis dit que j'allais rester dans cet accueil-là des personnes au parcours atypique. Je le souligne avec un gros marqueur. Comme gestionnaire, on a aussi la capacité d'influencer à l'interne, influencer notre staff, influencer notre organisation, notre CA, nos partenaires. Agir à contre-courant, on peut le faire également. Donc, on a parlé de professionnalisation. En effet, on voit dans les parcours scolaires une façon d'intervenir qui est axée sur une réadaptation, qui est axée sur, moi je dis, une sur-intervention. Il faut que j'intervienne, je suis intervenant. Ceci dit, c'est quoi qu'on met comme contexte interne? Est-ce qu'on n'a pas aussi notre propre rôle à jouer à l'intérieur? Donc, l'action communautaire autonome ne s'enseigne plus tellement. L'approche globale, c'est intéressant de poser la question en entrevue à quelqu'un qui sort de l'école. Décris-moi l'approche globale. Je ne l'ai pas vue à l'école. Bon. Qu'est-ce que nous, à l'interne, comme organisation, on fait pour maintenir l'approche globale? Qu'est-ce qu'on fait pour encourager l'action communautaire autonome? Est-ce qu'on a ces espaces-là aussi à l'interne? J'ai envie de dire également, quel est le contexte d'intervention que je donne? Est-ce que les intervenants, je leur fais assez confiance pour me dire qu'ils prennent la meilleure décision clinique? Ou est-ce que je vais inhiber toute proactivité et initiative parce qu'on a un contexte de répondre à des exigences et on va faire sentir cette exigence-là, le nombre de cases à cocher, de résultats à atteindre? Comment est-ce que je le fais vivre au quotidien? Donc, le rôle de gestionnaire d'organisme communautaire n'est pas facile, mais on a aussi un impact. Et l'impact, on peut choisir lequel qu'on veut avoir. Je pense qu'on peut mettre des conditions gagnantes aussi dans notre pratique de gestion, aussi dans la façon de travailler avec le staff, dans la formation continue, dans l'expertise partagée à l'interne, dans le co-développement, dans la réflexion qui se veut critique. On a parlé de l'intervention de crise tantôt, faire un retour avec la personne, qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être qu'on est allé toucher un trauma dans notre intervention. Quelle est la rétroaction qu'on va se faire aussi entre nous? Hey gang, ça a été quoi notre rôle? Peut-être qu'on l'a-tu provoqué, cette crise-là, par hasard? C'est avoir l'humilité de se remettre en question et de travailler dans cette approche qui se veut accueillante et bienveillante envers nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une question de baisser notre standard d'intervention, c'est une question de baisser notre standard à la perfection pour être aussi en adaptation dans nos façons et dans nos approches. Et ça, on a parfois des décisions à prendre, comme durant la pandémie, on a travaillé, hein, France et moi et d'autres collègues, sur un projet d'hébergement. Et le CIUS ne donnait pas assez de financement. Et pour nous, au niveau du nombre d'intervenants, au nombre d'avoir une coordination, le soutien qui était nécessaire, ça ne fonctionnait pas, le budget. Bien, on a dit non. On a dit non. Oui, il a fallu dire non. Dire non, ça voulait dire qu'on n'allait pas mettre sur pied l'hébergement à laquelle on avait réfléchi. Ça voulait dire qu'il y a des gens à qui on n'allait pas répondre. Ça voulait aussi dire que même s'il y a de l'argent qui tombait, même s'il y avait une proposition, on a décidé de maintenir nos valeurs dans l'action. On a décidé de garder nos principes. Et ça, c'est un rôle que nous pouvons avoir comme l'organisation de nos fonctionnements, nos activités, de nos services. Et je pourrais continuer très longtemps sur le même sujet, mais ici, je pense que ça faisait une belle entrée pour France. Qui voulait parler, entre autres, de prestations de services, d'organisation, de rôle et de sécurité.
C'est plus qu'une entrée que tu as faite là. Tu as fait une entrée puis une sortie. C'était exactement ça, parce qu'il y a la question des limites. Tout ce que tu as très, très, très bien dit aussi. Si on revient dans l'histoire là, rapidement, dans les années 80, la création des ressources communautaires, c'était à partir de ce que le milieu communautaire reconnaissait et identifiait comme besoin. Et c'était ça. Puis on développait avec les personnes à partir de consultations. Il y a beaucoup d'organismes qui sont nés du RAPSIM et d'ailleurs, et du terrain à Montréal. Puis, et là, maintenant, on répond à des commandes. On n'est plus dans nos bottines. Mais encore, faut-il avoir les moyens de nos convictions aussi. Là. Des fois, on est poigné à la gorge, puis on va faire un montage financier. Puis là, on fait de la reddition de compte, puis du quantitatif, puis du résultat, puis du mouvement pour mettre fin à l'itinérance en 5 ans. Et puis, fait que là, on s'est transformé en comptable. Et alors, donc, il y a des contraintes extérieures qui menacent nos valeurs, l'action communautaire autonome, l'approche globale, puis qui nuisent même à notre travail. Puis Geneviève, quand tu dis le travail, puis tout ce que tu nous as décrit tantôt, c'est effrayant quand le CIUS vient dire, bien, avec tout ce que ça peut représenter pour accompagner les personnes, jusqu'à, si on doit les amener à l'extérieur de nos ressources, le faire avec bienveillance, humanité et humilité, comme on a dit, ça aussi, ça fait partie. Mais quand on vient te dire, ben non, vous ne travaillerez pas à 5, là, vous allez travailler à 2 avec un gardien de sécurité, ça n'a pas de bon sens. Ça nuit à votre travail, ça nuit aux personnes, ça compromet. Puis je comprends que des fois, on est poigné là. Mais nous, on a pu dire non à Montréal sur la créature. Là. Puis on n'avait pas eu le temps de réfléchir comme il faut, en plus, aux enjeux et aux impacts.
Vous ouais, avez ben... dit non, mais ça a été créé pareil. C'est pas celui-là, non, pas le vôtre. C'est ça. Michel, tu voulais intervenir?
Oui, c'est aussi intéressant, la tournure autour de... la direction finalement de l'organisation, parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la pratique, mais on a un angle mort sur le système dans lequel on se situe et il faut en prendre la mesure. Juste le centre Laval. En 1990, un refuge, on a accueilli 150 personnes au cours de l'année. En 2000, on a accueilli 445 personnes. En 2010, on a accueilli 1200 personnes. En 2020, 1700. La question du volume est importante. On n'a pas de contrôle sur la demande qui arrive. On a une pression pour gérer les gens qui sont là, mais c'est entre 150 et puis 1700. Tu as le même nombre de lits, il y a quelque chose qui coince dans un coin. Là. Et ça, il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus. On a comme, à mon avis, on est comme aveugle. La société, il y a une production sociale de la désaffiliation et de la rupture sociale, et on n'a pas de contrôle là-dessus au niveau des services. C'est pas vrai que c'est à partir des services qu'on va arriver à quelque chose qu'on appellerait éliminer l'itinérance. C'est une illusion complète, à mon avis. On peut faire quelque chose, c'est sûr, on peut s'améliorer, on peut prendre soin du monde. Et là-dessus, France, ce que tu disais, puis Marie-Noël aussi, sur la question du passage vers les résultats, la quantité. Puis bon, on l'a vu après le programme IPAC, qui lui était intéressant avec Claudette Bradshaw, qui est décédée d'ailleurs, là, Claudette. Mais personne extraordinaire, très chaleureuse, très enthousiaste. Mais rapidement, on est entré dans une dynamique qui n'est pas le problème de la professionnalisation comme telle, mais de la bureaucratisation, qui est une chose différente au niveau de la gestion. Et parce que ça sert à sécuriser les processus de contrôle et puis politique. Là. Ça n'a rien à voir avec l'atteinte des résultats par rapport aux besoins. Ceci dit, moi, je crois que et je suis arrivé à l'expérience que avec le contexte dans lequel on est, on ne peut pas éliminer la question des résultats. Si on a, par exemple, comme tu sais, dans mon cas, c'était un refuge, j'ai 20 lits, j'ai 1000 demandes, j'ai obligé de réfléchir sur les résultats dans le sens de dire, je peux-tu vraiment accueillir ces gens-là, puis où je vais les mettre, tu sais, bon. Ça, c'est pour moi une réflexion importante sur, je suis capable de faire ça, là, tu sais, puis à quelles conditions, tu sais, quand tu réfléchis, il me faut des intervenants, il me faut 5 intervenants, pas juste un gardien de sécurité, puis un autre qui sort du collège, puis qui est insécure, là, tu sais, bon, ça n'a aucun sens. Ça. Donc, ça, c'est vraiment lié à la question des résultats. Et on a, je pense, tendance à opposer la question des résultats avec celle qu'on appelle de l'accompagnement ou la création des liens. Moi, je suis arrivé à penser que, loin de s'opposer, que les résultats sont conditionnés par la capacité de la présence de créer des liens dans un milieu de désaffiliation. Si on est dans un milieu chirurgical où j'ai à faire des opérations sur les genoux, bon, écoute, même si le chirurgien n'est pas bon relationnellement, s'il maîtrise bien ses couteaux, moi, ça va faire mon affaire. Okay? Mais dans le milieu de la désaffiliation, la capacité des intervenants et de la direction d'être présent à la réalité que vivent les personnes est essentielle. Ce n'est pas facultatif, intéressant, beau, c'est le cœur de l'intervention. Mais ce n'est pas opposé à avoir des résultats, c'est le contraire, c'est ce qui permet de les atteindre. Et moi, je tiens cet argument-là et je pense qu'il est vrai. Et c'est l'humilité pour moi, c'est la capacité de voir la réalité comme elle est. Point à la ligne.